Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Nouvel épisode de Biotope sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Une émission également diffusée sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Je suis en compagnie de Marie-Noël Baudinier, bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Caron, bonjour.
Bonjour.
Et vous allez nous parler de l'accorderie, un regroupement de personnes qui s'échangent des services. Qui veut nous faire une présentation de ce qu'est l'accorderie ?
Pascal. Effectivement, l'accorderie, c'est un réseau d'échange de services entre particuliers. Je précise dès le départ parce qu'on ne prend pas de ce qu'on appelle des services de professionnels ou de gens dont c'est le métier, enfin, dont ils tirent des revenus. Donc, le principe, c'est bien d'échanger des services entre particuliers, de 1 à 1, de 1 à plusieurs, donc services individuels, collectifs. On a même ce qu'on appelle les échanges associatifs, c'est-à-dire que l'accorderie fait appel à ses membres pour des tâches particulières et on leur crédite du temps pour le temps passé aux échanges. Donc la monnaie d'une accorderie, c'est le temps.
C'est une banque de temps, de services en temps. Par exemple, on propose tel type de service, on gagne des minutes, des heures.
Des heures. On évite pour les minutes parce que ça devient un peu compliqué.
Et donc on va pouvoir les échanger avec d'autres personnes qui eux-mêmes auraient cumulé des heures. Est-ce que vous voulez nous détailler un petit peu comment ça se passe ? Est-ce que c'est un système de personne à personne ? Marie-Noël.
Oui, ben moi je peux partir de ce que je vis à l'accorderie. J'ai eu des échanges avec des personnes parce que j'ai horreur de faire du repassage et du raccommodage. Donc j'ai fait cette demande à quelqu'un qui est parti avec ma pile de linge, qui est revenu avec du linge tout raccommodé. Donc en échange, je lui ai fait un chèque de 4 heures. Pareil pour le repassage, parce que j'avais une pile énorme, donc elle est repartie avec un chèque de 4 heures. Voilà, donc ce temps, elle pourra l'utiliser à d'autres choses, à d'autres types de services. Je sais qu'il y a une des femmes qui avait besoin qu'on lui refasse un peu de maçonnerie, donc elle a fait, avec les heures qu'elle avait, elle a fait appel à quelqu'un pour venir l'aider à faire un peu de maçonnerie chez elle.
Le principe, ce que j'ai envie de vous entendre dire, c'est qu'on ne peut pas effectivement s'échanger des heures entre personnes qui auraient trouvé qu'elles avaient des services communs qui les intéressaient tous les deux. Ou peu ou prou en tout cas.
C'est pas interdit, mais c'est plutôt rare. Moi j'ai l'expérience d'une accorderie parce que ça existe depuis assez longtemps, déjà 10-12 ans au Québec et maintenant 3 ans en France. C'est que ça a été plutôt rare le troc, ce qu'on appelle de personne à une autre personne. C'est bien rare qu'on ait besoin du service d'une autre personne avec qui on a offert un service. Donc en fait c'est pas interdit, mais c'est pratiquement, de ma connaissance, pratiquement jamais arrivé. Parce qu'en fait, on a une banque de services. L'intérêt d'une accorderie, c'est qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, à Die, on a passé les 100 personnes. Mais par exemple, à Paris 19e, ils sont 550, je crois, à Chambéry, parce qu'il y en a d'autres ailleurs. À Chambéry, ils sont plus de 350. Donc, ça veut dire 350 personnes, ça veut dire presque 300 offres de services différentes. Donc, ça donne une banque de services très, très importante qui permet de satisfaire les besoins qu'on a, en fait. Ouais.
Avant d'aller plus loin, justement, faites-nous un peu cette historique des accorderies. D'où ça vient? Comment ça naît? Qui a inventé cela?
Bon, c'est parti du Québec. Moi, j'y ai vécu 17 ans avec mon conjoint et je travaillais dans une banque solidaire qui se préoccupait de rendre service à ses membres. Ça peut paraître bizarre, mais parce qu'on était coincés dans les normes bancaires et on était obligés de faire des prêts à des taux très importants ou de demander aux gens d'avoir des cartes de crédit. Mais bon, quand on est sur l'aide sociale ou à très faible revenu, on n'a pas accès à ce genre de service. Donc, on réfléchissait à remettre en place du microcrédit dans un organisme à côté de la banque pour ne pas être coincé par les normes. Et en même temps, on était dans un quartier où il y avait beaucoup de pauvreté, d'itinérance. Et il y avait une fondation privée qui se préoccupait, elle, beaucoup de sécurité alimentaire. On voyait de plus en plus apparaître des banques alimentaires, on voyait apparaître de plus en plus des prêteurs sur gage. Là-bas, il y en a énormément, avec un taux d'usure qui peut aller à 60%. Donc, voilà. Et tout ça faisait qu'on se disait, bon, si on fait juste régler le problème de la nourriture ou le problème de l'accès au crédit, on va pas changer grand-chose dans la vie des gens. Donc l'idée, ça a été de mélanger un système d'échange local. En fait, on est parti des selles, des banques de temps, des lettres anglaises. On a fait des groupes d'achat, puis on a tout panaché. Puis on a fait un organisme dans lequel on fait tout ça. Enfin, on faisait tout ça au Québec. L'idée étant de pouvoir permettre aux gens de s'offrir des services en temps qu'ils ne pouvaient pas se payer en argent, mais également d'avoir accès à du microcrédit et avoir accès à un groupe d'achat. Alors voilà comment c'est parti. Ça a fait des petits au Québec. Aujourd'hui, il y en a presque une dizaine, je pense. La première est née à Québec, donc en 2002. 11 ans plus tard, il y a à peu près une dizaine. Et puis, il y a 4 ans, maintenant 4 ou 5 ans, la Fondation Massif et le Secours catholique, lors d'une visite au Québec, ont voulu voir un peu ce que c'était que cette bibite, comme on dit là-bas. Et donc, sont venus nous visiter à la Corderie de Québec et ont trouvé ça intéressant. Et en particulier, la Fondation Massif est revenue avec l'idée que ça pourrait être intéressant d'implanter ça en France. Et c'est donc en 2011 que les premières expérimentations ont eu lieu, une à Paris 19e et une à Chambéry. On a donc rapatrié tous les outils qui avaient été développés au Québec. Le site était sur un, parce que donc ça part sur un site internet. Il était sous logiciel libre, donc ça a permis de le développer. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une entreprise d'IOS qui l'a développé et qui continue de développer. Voilà, on est parti avec deux expérimentations et puis maintenant, dit un peu naturellement, on a ouvert une accorderie à Die. Mais il y en a 3 autres à Paris et il y en a en gestation potentiellement sur Rhône-Alpes 3 ou 4.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette dimension sociale et plutôt durable qui apparaît là directement quand on entend un peu cette description de la corderie ?
En fait, l'idée de départ, en tout cas au Québec, c'était très clairement de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Ça, c'est peut-être la grande différence parce qu'on nous pose éternellement la question, c'est quoi la différence avec un SEL, un système d'échange local ? Je ne veux pas dire que les SEL ne sont pas là non plus pour lutter contre la pauvreté, mais en général, on retrouve quand même beaucoup plus des gens conscientisés, militants un peu dans les SEL. Une accorderie, ça a vraiment été mis en place pour permettre à des gens de s'offrir des services qui peuvent pas se payer en argent. Donc ça, c'était la base de départ. Donc d'avoir accès à de l'alimentation de qualité correcte, parce que quand on est en Amérique du Nord, on sait ce que ça veut dire, la malbouffe. C'était aussi d'avoir accès à du microcrédit pour pouvoir très clairement faire face au frigo qui lâche ou quoi que ce soit. Quand on est en situation de pauvreté, on n'a absolument aucun moyen de changer un appareil, de faire face à des dettes d'électricité, de téléphone, etc. Donc là, c'était très, très, très clairement l'optique de la corderie. C'est vraiment de permettre à des gens donc de recréer une économie plus humaine, plus alternative, et de se dire on a tous du temps, on n'a pas forcément de l'argent, mais on a tous du temps. Avec ce temps, on va pouvoir enfin s'offrir des services et aussi en offrir aux autres. Parce qu'une des problématiques des gens qui sont en situation de pauvreté, c'est que la société leur dit très, très souvent qu'ils sont surtout des charges, qui sont des fois bons à rien. Donc, tout le monde a des talents. Donc, dans une accorderie, tout le monde peut s'échanger ses talents sur une base égalitaire. Donc, une heure de service rendu égale une heure de service reçu. Donc, une heure de repassage égale une heure d'informatique ou une heure de ce que vous voulez. Et c'est la base d'une accorderie. Sa contribution sociale est la même pour tout le monde. Donc, tout le monde retrouve son estime de soi dans une accorderie. Et puis, ça brise aussi beaucoup l'isolement parce que, avec le recul, on a vu se développer tout un tas d'ateliers collectifs de toutes sortes, beaucoup dans le domaine de la culture et des loisirs, des gens qui n'ont pas accès en général.
Voilà, en ayant échangé auparavant des heures de repassage.
Par exemple.
Donc, on accède à des cours de musique.
Voilà.
Peut-on imaginer que vous citiez des personnes qui étaient dans des situations de pauvreté, donc qui n'ont peut-être pas de travail, donc pas de revenus réguliers. Peut-on imaginer des gens qui ne vivent et ne travaillent que pour une accorderie ? C'est-à-dire n'ont plus besoin d'aller travailler au sens étatique du terme.
C'est un peu extrême parce que une accorderie, on peut s'offrir des services, mais on peut pas acheter des biens, par exemple. Pour l'alimentation, il faut quand même payer. Donc, vivre que sur du temps, je pense que c'est difficile. On pourrait rêver peut-être, mais là, non, je pense que c'est pas possible. Mais par contre, ça vient compenser. Petite histoire toute bête. J'ai en tête quelqu'un que mon conjoint avait emmené de Québec à Montréal en voiture. Dans la voiture, cette personne lui disait, tu vois, en me faisant économiser le prix du trajet, que ce soit en bus ou en train, pour aller de Québec à Montréal, je vais voir mon petit garçon parce que je suis séparée. Je vais emmener mon petit garçon au cinéma. Donc, concrètement, j'ai gagné en payant en temps le trajet, ça du temps j'en ai, j'ai économisé de l'argent qui me permet d'emmener mon petit garçon au cinéma. Donc c'est ça en fait, mais de dire qu'on pourrait vivre que sur du temps, non, ça j'y crois pas. Enfin j'y crois pas, je pense que c'est même pas possible d'ailleurs. Par contre, qu'on se repose des questions sur nos types de consommation, oui, ça serait peut-être une bonne idée, de la course effrénée à la consommation. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a des choses qu'on peut éviter de consommer, mais y compris dans les services. Mais les services essentiels, enfin les besoins essentiels, il y a une bonne partie en temps, d'autres c'est plus difficile.
Est-ce que vous déterminez comme ça des services qui seraient essentiels et qui doivent rentrer dans une accorderie et d'autres qui n'y rentrent pas ?
Ça ne se pose pas tout à fait comme ça. En fait, quand une personne vient s'inscrire, on voit avec elle quel type de service elle peut offrir. Et souvent, les personnes disent bah, « moi, je ne sais pas faire grand-chose, je ne vois pas bien ce que je peux offrir ». Donc, en fait, il y a tout un temps d'accompagnement, de recherche avec la personne, parce que finalement, chacun sait faire quelque chose et a une petite passion qu'il a envie de partager. Des fois, il y a des trucs très originaux qui finissent par sortir. Et puis, on détermine aussi les besoins. Et ça, finalement, c'est pas toujours facile de aussi... pour des personnes qui seraient plus, on peut dire, militantes, de faire des demandes, parce qu'elles sont habituées à beaucoup donner dans la vie associative, elles font beaucoup de choses, et d'apprendre à demander. Moi aussi, j'ai besoin de toi. C'est un petit changement culturel.
Et on ne peut pas être mécène de la corderie, quoi. Hein.
Ah,
non.
On n'a pas encore inventé ça, non.
Ouais. La personne qui ne ferait que donner du temps, tout le temps.
Bah, en fait, le principe, c'est vraiment l'échange. Et moi, ce que j'aime bien à la corderie, c'est que d'une part, ça fait rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément dans mon réseau de vie. Le système d'échange me met en contact avec elles parce que j'ai besoin d'elles ou elles ont besoin de moi. Je rencontre des gens de différentes générations, des plus jeunes, d'autres de ma génération. On rencontre différentes situations sociales. Et c'est une très grande richesse relationnelle. Ça, c'est un bel atout.
C'est presque ce qui doit être mis en avant, en fait, cette mise en lien des personnes, malgré elles, finalement, enfin, simplement parce qu'elles sont entrées dans le système.
Bah, en fait, on a toujours recherché la mixité sociale en disant, même si les prémices de départ, c'est bien de lutter contre la pauvreté, l'exclusion, l'itinérance, mais c'est aussi en permettant à toutes les personnes de toutes les catégories sociales de se retrouver.
Est-ce que ça marche ?
Oui, ça marche. En tout cas, ça marche en France et ça a très bien marché au Québec, puisque à Québec, par exemple, on avait des membres qui étaient aussi bien sur l'aide sociale que des membres du Rotary Club. A priori, c'est des gens qui ont peu de chances de se rencontrer dans la vie. Donc, et au milieu, il y avait à peu près toutes les catégories. Donc ça, c'est le principe d'une accorderie. C'est vraiment de veiller à cette mixité sociale qui permet de faire des rencontres des fois improbables et de se faire rencontrer des gens qui ont peut-être des regards un peu des préjugés les uns sur les autres et qui vont tomber au quotidien parce que, bon, on est tous pareils, on est tous des humains d'abord. Et je crois que c'est ça la grande richesse de l'accorderie. Je reviens sur le mécénat. Le mécénat, c'est même presque à l'inverse d'une accorderie, puisque dans une accorderie, à partir du moment où on reconnaît les talents de tout le monde, l'idée c'est bien de ne pas être dans cette position, de cette posture de don, mais c'est vraiment cette posture d'échange. Avec des gens à qui on a tendance à dire souvent on va te donner par charité, par tout ce qu'on veut, par solidarité, eux ce qu'ils disent, nous on en a, ça suffit là, ce qu'on veut c'est juste échanger avec quelqu'un.
Ne plus être en dessous de vous et dans
la
tente.
Ne plus être à la charge, entre guillemets, de quelqu'un. Donc, à la limite, et je pense qu'effectivement, les gens qui seraient un peu des mécènes, c'est souvent des gens qui ont effectivement beaucoup travaillé dans le milieu associatif, qui sont bénévoles et qui restent un peu dans cette posture-là. Et il faut les faire bouger en disant non, non, le but, c'est où tu accumules des heures, bah, t'échanges. Sinon, on va te les enlever. On va les mettre. On commence à se poser la question de se dire, va peut-être falloir qu'à un moment donné, quand il y a trop d'heures, on dit, bah, où tu les échanges, ou on te les enlève, puis on les met, je sais pas où, dans un fonds quelconque, pourquoi pas.
Dans un fonds encore plus social.
Voilà. Pour des gens qui auraient des difficultés, parce qu'on peut avoir des gens qui ont des limites fonctionnelles qui les empêchent. Je me souviens d'une non-voyante à Québec, bah pour elle, c'était un peu compliqué. En fait, et comme il fallait faire des fois des relances au téléphone, elle m'a dit, bah moi, si vous me donnez un téléphone avec du braille ou s'il y a quelqu'un à côté de moi qui me fait les numéros, après, je vais téléphoner. Donc, elle, c'était plus compliqué pour elle. Mais on avait trouvé le moyen
de trouver le service à échanger.
Voilà, mais on a fini par le trouver. Donc, elle était très contente et très fière d'elle-même. Puis tout le monde était fier d'elle et de ce qu'elle pouvait apporter à la corderie.
Ces services se multiplient-ils ? Par exemple, on pourrait imaginer plusieurs personnes en capacité de faire du repassage. Alors, comment est-ce que vous gérez comme ça pour avoir un panel vraiment divers de services ?
Bah, c'est ça qui est intéressant parce que les personnes ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Et moi, quand, par exemple, mon histoire de repassage, j'avais téléphoné à quelqu'un d'autre qui n'était pas disponible dans la semaine. Donc, j'ai appelé.
Qui n'avait pas de temps à donner.
Pas de temps tout de suite, parce qu'elle avait, je ne sais plus, c'était l'histoire de vacances. Donc, je pense que c'est intéressant d'être nombreux. Et plus on va être nombreux, plus ça va multiplier les possibilités. Et puis, il y a quelque chose là qui me semble important. C'est des fois, je vois passer une demande, une personne qui fait telle et telle demande. Et je me dis, ah, bah ça, je sais le faire, mais je n'ai pas pensé à proposer. Et je peux répondre à cette demande. Donc, les demandes des autres vont peut-être venir réveiller chez chacun ou chez certains un savoir qu'elle avait un peu mis de côté ou qu'elle ne sait pas mettre en valeur. Et plus ça va aller, plus chacun va développer sa capacité de service.
Parlons un petit peu de la gestion d'une accorderie, parce que là, on entend les gens qui viennent, vous les recevez, vous évaluez avec eux quels sont leurs besoins, quelles sont leurs compétences, quels services ils peuvent offrir. Vous calculez le temps qu'ils accumulent les uns les autres. Alors, comment ça se gère ? Est-il des salariés ?
Il y a Léonie qui est salariée à mi-temps pour l'association. Donc, elle est payée en euros. Et tous les autres accordeurs qui viennent, par exemple, faire une permanence sont payés en temps. Chacun, il n'y a pas de bénévolat, sauf les gens du conseil d'administration, pour les réunions du conseil d'administration, mais tout le reste, tout le bénévolat est payé en temps. Du coup, très vite, les échanges peuvent démarrer parce que chacun a une possibilité. Déjà, quand on devient accordeur, l'accorderie donne 15 heures à chaque personne. Donc, les échanges peuvent démarrer le jour même. Quoi.
Sans qu'on ait déjà offert des services.
Hein. Voilà. Comme ça, l'idée, c'est de mettre en route. Parce que sinon, ça peut être difficile d'attendre, d'avoir un certain nombre d'heures pour faire des demandes. Donc, là, quand on a 15 heures, et très vite, moi, je m'aperçois que les gens donnent du temps. Ils viennent faire une permanence, ils viennent donner un coup de main, ils viennent faire des gâteaux pour tel et tel événement. Voilà. Par exemple, il va y avoir l'inauguration. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour organiser cette inauguration et ils sont payés en temps.
Inauguration de l'accorderie.
De l'accorderie, oui.
Sur 10.
Donc, on a démarré en février, mais là, on fait un temps un peu officiel, un peu festif pour nous faire connaître et puis aussi que les accordeurs se rencontrent parce que comme on est une centaine, on ne se connaît pas tous. Voilà.
C'est le 24 septembre, donc de 14h à 16h à la salle communautaire du Palais Social. Pour suivre, le système est sur un site qui s'appelle accorderie.fr. Pour la petite histoire, c'est toujours intéressant d'aller voir accorderie.ca, puisque c'est le même graphisme aujourd'hui, qui vient d'ailleurs toujours du DIWA. Et donc, c'est un site internet interactif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est membre d'une accorderie, on va sur le site des accorderies françaises, on va choisir son accorderie du DIWA. Et là, avec un code d'accès, on rentre sur la banque de données avec des petits moteurs de recherche. Et là, on va sous le service recherché, on va avoir toute la liste des accordeurs qui offrent le service. Généralement, on cherche plutôt la proximité, hein, ou la disponibilité ou la proximité. Après, on va téléphoner directement, on ne va pas passer par l'accorderie. On téléphone à l'accordeur qui offre le service, on s'entend avec lui. Et à la fin du service, on va remplir un petit chèque temps qui va revenir à l'accorderie, qui va être comptabilisé dans le compte temps de la personne. Et ce compte temps, on y a accès aussi sur Internet. Donc, on peut à tout moment, un peu comme un compte bancaire, sauf que là, au lieu que ce soit des zéros, c'est du temps qui dit combien il nous reste de temps, combien on a dépensé pour quel service. Donc, c'est une gestion, beaucoup électronique, j'allais dire. Et on a quand même prévu pour les personnes qui n'auraient pas Internet, elles peuvent passer à l'accorderie. Il y a un poste en libre service et aussi du tirage papier, des documents pour les personnes qui n'ont pas accès.
Comment on évalue ce temps vraiment à la minute? Vous êtes venu à telle heure me réparer mon lavabo, à telle heure ça a été terminé, voilà, je vous dois tant.
C'est à peu près comme ça que ça se passe, ou alors on s'entend à l'avance sur un certain service, ou alors ça va être le temps passé, effectivement. Alors après, il y a des petites différences pour le temps passé sur certains services. On va peut-être des fois, on a été amené par exemple à Québec à tarifer un peu certains services pour éviter que ça explose quand même. Marino disait que quand on donne du temps à l'accorderie, le principe aussi à l'accorderie, c'est que quand on accepte de s'impliquer sur une commission, alors il y a une commission communication, il y a une commission animation, il y a une commission butinage, SMH, on va en parler après. Donc le principe, c'est que quand on fait une commission, quel que soit le temps qu'elle passe, parce que souvent là-dedans, il y a beaucoup de social, petit gâteau, café, etc. Donc généralement c'est 2 heures. Donc si on passe 3 heures ensemble, on va quand même recevoir 2 heures. C'est le forfait. Mais sinon le principe c'est le temps passé. Alors petite différence par exemple, parce qu'on voit se développer des services d'hébergement. Ensuite, en plus inter-accorderie, ça c'est intéressant. Des gens qui disent, ça a été fait récemment, des accordeurs de Chambéry qui peuvent venir à 10. Là, ça ne va pas être au temps passé parce qu'une nuit, ça ferait un temps absolument infernal. Donc là, c'est un tarif de 3 heures par personne, par exemple. Donc il y a des moments où l'accorderie va tarifer, entre guillemets, mais la plupart du temps, ça va être le temps passé.
Et si l'accorderie ne gère pas cet échange de temps-là entre les personnes, ça part sur un principe de confiance et... Mmh. et personne ne s'est à présent fait arnaquer sur son temps ou a été déçu ou est sorti de l'association déçu.
Ça a pu, c'est tellement à la marge que ça vaut, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Les déceptions souvent sont plus, c'est pas tant lié souvent au service rendu qu'au fait que les gens qu'on appelle répondent pas. Ça c'est toujours, des fois on appelle un accordeur et puis bon il répond pas, on laisse un message, ça répond pas. Ça c'est plus ça qui peut arriver. Mais moi je peux vous dire que qui suis maintenant ça depuis 13 ans, j'en ai très peu vu des déceptions. On a d'ailleurs sur le site des formulaires de satisfaction ou d'insatisfaction, et c'est plus à 90% de la satisfaction que de l'insatisfaction. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont pas contents, ça.
Vous abordiez cette commission butinage, essaimage. Alors allez-y, hein, vous avez dit qu'il faut qu'on en parle tout à l'heure. Alors,
voilà,
c'est
en
maintenant.
Fait, la corderie, elle n'est pas réservée à 10. Elle est pour l'ensemble du DIY et même un peu plus large parce qu'il y aurait, sur Saillant, il y a un projet. Donc il y a des personnes qui sont venues nous voir en disant « mais nous, on aimerait bien faire des échanges ». Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire les échanges le plus en proximité possible. Donc il y a un petit groupe actuellement sur Luz-la-Croix-Haute qui est en train de s'organiser avec l'appui d'une association qui s'appelle les Lucioles. Et il y a un projet sur Saillant aussi d'ouvrir des temps de permanence et que des échanges entre accordeurs se mettent en place. Voilà, pas tout concentré sur 10, mais de permettre dans les différents petits villages aussi, c'est un projet, hein, parce qu'on est encore récent sur le DIY, mais c'est de développer le plus possible pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent bénéficier des services.
Alors là, encore une fois, on viendrait vous voir à la corderie de 10 et puis on proposerait de monter son antenne sur un autre secteur local.
Voilà, donc
vous donnez les outils vous...
Voilà, nous, on peut être en appui. On essaye qu'il y ait un minimum de groupes de personnes parce que ça demande quand même pas mal d'énergie de lancer une accorderie. Là, rien que sur 10, on y a travaillé pendant plus d'un an, 18 mois même, je crois. Mmh. À une dizaine de personnes avant qu'on puisse vraiment démarrer. Donc, je pense que c'est l'idée quand tel ou tel village a envie de lancer une accorderie, c'est de trouver un petit groupe de personnes et nous, on va venir en appui au moins au démarrage. Puis après, ça se fait.
Il est conseillé de partir quand même déjà avec plusieurs personnes, déjà un groupe. Hein.
Oui. Oui, c'est difficile de lancer tout seul parce qu'il y a quand même pas mal de démarches à faire. Et puis contacter des gens. Plus on est nombreux, plus on arrive à toucher des réseaux, quoi.
Comment vous vous positionnez par rapport au système capitaliste actuel, par rapport à notre milieu aussi, qui est la Biovallée, par exemple, et puis par rapport aux autres monnaies complémentaires qui apparaissent?
Pour nous, une accorderie, ça fait partie du grand volet économie sociale et solidaire. Hein. Donc, on dit toujours, c'est une économie marchande non monétaire. Ça reste une économie entre guillemets marchande, mais marchande au sens premier du terme. De tout temps, les hommes et les femmes ont échangé. Hein. Ça a été la base même du système social. Donc, on revient simplement aux bases du système d'autrefois, avec une monnaie qui, elle, n'est pas spéculative. Donc, ça, c'est la grande différence. C'est une monnaie complémentaire un peu différente. C'est vrai que dans le cadre des monnaies complémentaires qui se développent de plus en plus actuellement, qui sont des monnaies très locales, je dirais que la corderie est dans le local. Mais ça fait partie, pour beaucoup d'ailleurs, ça fait partie des monnaies complémentaires qui se développent. Pas dans le système traditionnel, puisque évidemment, une monnaie complémentaire, elle est dans une ville entre commerçants, artisans et les consommateurs. Mais ça procède, à mon avis, du même esprit de retrouver une économie d'abord plus humaine, qui est surtout une économie faite pour faire échanger des services et des biens et non pas faire de la finance. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on le sait, l'économie s'est complètement financiarisée. Et s'il y a une explosion des monnaies complémentaires ou des systèmes d'échanges locaux, des accorderies, c'est bien que les gens ont envie de revenir à la base de ce qu'étaient les échanges économiques autrefois. Et la véritable économie, hein, si on se rappelle de l'étymologie, c'est... Enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, en gros, ça veut dire quand même faire le ménage chez soi et puis tout. Donc, on a un peu oublié ce que c'était. Donc, je pense que c'est un grand tout. Donc, monnaie complémentaire, accorderie, système d'échange locaux, dans le grand cadre de cette économie sociale et solidaire, qui est dans ce qu'on appelle l'économie plurielle, à côté de l'économie publique et de l'économie privée. Et on va espérer qu'on va de plus en plus contaminer les économies privées pour les rendre un peu plus, ou socialement responsables, ou en tout cas, qu'elles redeviennent ce qu'elles devraient être depuis toujours, c'est de faire de l'économie et non pas de la finance.
Je profite que vous avez une expérience de 13 ans pour vous demander, avez-vous déjà subi des pressions de lobbying financier qui justement verraient ça d'un assez mauvais œil finalement? Non, de ne plus payer ses services, c'est, ah oui, c'est incroyable.
Non, disons que non, parce qu'on est malheureusement on reste quand même un peu à la marge. C'est vrai qu'il y a eu, puis en France ça va se poser, ça se pose. Il y a toujours la tentation de dire c'est de la concurrence déloyale, c'est du travail au noir, c'est de l'évasion fiscale, enfin tout ce qu'on veut. Moi j'ai toujours une seule réponse, c'est le jour où notre société ne permettra plus de faire des échanges gratuits entre particuliers, je pense que là on sera vraiment allé au bout de.
Malheureusement, au bout de la fin.
De la fin, ouais, c'est ouais. Ça. Donc, c'est pour ça qu'on tient vraiment là-dessus. On est très prudent de ne pas accepter que des professionnels viennent offrir des services. Un artisan peintre ne peut pas proposer de faire de la peinture dans l'intérieur d'une accorderie. C'est pas possible parce que c'est son métier. Parce
qu'il peut proposer autre chose, mais
il peut proposer autre chose, mais ça peut pas être son métier. Donc ça, déjà, c'est important. Il faut savoir aussi que il y a deux cas de figure. Soit les gens, de toute façon, n'ont pas les moyens de se payer le service. Donc de toute façon, ils sont pas en concurrence. Ils mettent pas en concurrence quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas se l'acheter, ou ça reste quand même des services très ponctuels. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours ça qui ressort, c'est évasion fiscale, travail au noir, ben non. Il faut encore accepter qu'on puisse encore faire de la solidarité, de l'entraide naturelle, qu'on puisse s'échanger des choses sans être obligé de passer par les systèmes fiscaux, TVA, etc. Sinon, on va vraiment, comme vous dites, on va vraiment au bout de la fin. Au bout du bout, comme on dit au Québec.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Qu'est-ce que l'accorderie ?
Un réseau d'échange de services entre particuliers.
Et on s'échange quoi ?
Tout ce qui est possible d'échanger, des services uniquement, mais à peu près tous les services possibles et imaginables, tous les talents qu'on a tous les uns les autres.
Contre quoi ?
Contre du temps.
L'accorderie a dit existe depuis combien de temps ?
Depuis le mois de février, nous avons ouvert un local, mais ça a été 18 mois auparavant de maturité, réflexion, mise en route pour que ça puisse déboucher.
Et depuis donc février, vous êtes maintenant une centaine à vous échanger des services. L'heure d'un petit bilan, alors des points positifs et des points négatifs, s'il vous plaît.
Pour moi, les points positifs, c'est que ça marche, parce qu'on nous avait dit, mais a dit, dans le DIY, il y a déjà beaucoup d'échanges, mais il y a beaucoup de trocs, c'est informel. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une accorderie ? En fait, moi, je m'aperçois que ça marche et c'est une grande richesse pour chacun en termes relationnels, en termes découvertes, puis en termes d'améliorer ses conditions de vie. Dans les points négatifs, la difficulté pour le moment de nous faire connaître.
D'agrandir ce réseau.
Oui, d'agrandir, de l'élargir au petit village, parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent éloignées des services, et comment les rejoindre, comment faciliter les échanges. Bon, c'est notre grosse question aujourd'hui.
Là, aujourd'hui, on explose un peu. Notre local, aujourd'hui, est trop petit. C'est à la fois un point positif, parce que c'est-à-dire qu'il y a plein de monde, mais négatif, parce qu'à l'accueil, là, quand on est 10, on se marche sur les pieds, et que c'est compliqué de trouver d'autres locaux à 10.
C'est un appel, de plus, d'ailleurs. Parlons purement financier, comment vous fonctionnez ? Alors vous avez un salarié aujourd'hui, vous avez un local, vous avez des frais de support internet, etc. Vous êtes une association aussi, loi 1901. Hein. Donc combien cela vous coûte et qui vous aide ?
Pour 10, c'est à peu près 35 000 euros par année. Et la particularité d'une accorderie, c'est que les budgets n'ont pas vocation à augmenter avec le nombre d'accordeurs. Ce sont des budgets qui normalement restent relativement constants. On est aidé par la Fondation Massif qui a implanté en France les accorderies, et le Conseil régional et la Fondation Abbé Pierre, qui regardent de très près ces expérimentations qu'on dit de l'innovation sociale, même si en fait l'innovation c'est de revenir à la base de ce qu'était l'entraide et la solidarité avant. On retrouve ce qu'on a perdu.
Vous nous avez parlé de 18 mois de création, alors maintenant parlons des moyens humains.
Il faut au départ s'informer un peu de ce que c'est qu'une accorderie. Alors sur Rhône-Alpes, on a mis en place un petit processus collectif avec l'Union Rhône-Alpes des centres sociaux, les regroupements de régies de quartier, les foyers de jeunes travailleurs, le Secours catholique, deux journées d'information par année à tous ceux qui sont intéressés. Quand il y a plusieurs personnes d'un même territoire qui viennent, on leur propose deux autres journées de formation pour voir un peu comment on monte une accorderie, comment on se mobilise. Une accorderie, c'est fait par les accordeurs, c'est pas un conseil d'administration qui dirige, et c'est tout ce travail de mobilisation qui est important pour qu'on ait vraiment des accordeurs qui s'impliquent. Le but, c'est pas une association hiérarchique de haut en bas, mais c'est vraiment le bas qui crée l'accorderie. Donc c'est tout ce travail de mobilisation, d'aller convaincre un peu des partenaires que c'est un projet intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut des petits groupes au départ de gens très motivés. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a l'inauguration de l'accorderie de Dîmes, et le 26, donc deux jours plus tard, on a une journée à la la deuxième journée d'information à Chambéry.
Il faut déjà partir avec un groupe un peu solide, voilà. Et qui a envie de monter ça.
Voilà, et puis qui s'inscrit dans le temps, c'est un peu compliqué. Des fois, on est très mobilisé et puis on a envie que ça arrive tout de suite. Ben non, il faut accepter que ça s'inscrit dans une durée parce que ce sont des projets qui ont besoin de se maturer, j'allais dire. Il faut leur faire le temps de grandir. Voilà, c'est un peu comme un bébé, il faut qu'il naisse et puis qu'il faut qu'il grandisse tranquillement.
Terminons par les coordonnées. Comment trouve-t-on l'accorderie, Adi ?
12 rue Émile Laurent. Le téléphone 04 75 21 42 49. Voilà, puis on trouve toutes les coordonnées sur le site accorderie.fr.
Avec toutes les autres accorderies de France.
Voilà, il suffit de chercher son accorderie,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça.
Et on tape accorderie de Die.
Après, si on veut rentrer dans la base de données, il faut être membre.
Et pour être membre, il faut passer rue Émile Laurent.
Voilà, il faut aller s'inscrire. Et ça ne peut pas se faire par Internet parce que le lien social est important. Et puis, le nombre de personnes qui arrivent, pour ne pas dire la quasi-totalité, qui arrivent en disant « mais qu'est-ce que je pourrais bien offrir ?» C'est pendant cette phase de rencontre, pendant les permanences, que tout d'un coup, on se dit « ah bah ça y est, je n'avais pas pensé que je savais faire telle ou telle chose. »
Capsule. Pascal Caron, Marie-Noëlle Bodinier, merci pour cette présentation et à bientôt sur nos antennes.
Merci.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Un programme soutenu par BioValley.